Il est 11h30, Infomag avec Jean-François Bodin.
Cérémonie place Bir Hakeim ce matin, elle a permis de commémorer la fin de la Deuxième Guerre mondiale dans le Pacifique. Nouméa accueille la 42e réunion du Conseil des arts et de la culture du Pacifique, elle a débuté ce matin à la CPS. Se mettre ou se remettre en mouvement, c'est l'objectif du Challenge CIPAC. La 3e édition présentée ce matin aura lieu du 6 au 20 octobre prochain. En métropole, François Bayrou reçoit tour à tour les chefs de parti, mais il aura du mal à faire voter la confiance à son gouvernement dans une semaine. Nouvel exemple de l'ultra-violence chez les jeunes en métropole. Près de Lyon, un adolescent de 13 ans a poignardé à mort un autre adolescent pour un téléphone portable volé. Et puis dans la page de sport du football, avec la fin du mercato et une recrue de dernière minute pour l'OM, Benjamin Pavard rejoint le club phocéen, prêté par l'Inter de Milan avec option d'achat. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. La lecture est une activité importante pour les enfants, quel que soit leur âge. Activité en recul depuis l'irruption des écrans, notamment des smartphones. Alors que l'opération Livre mon ami n'est plus reconduite, nous parlerons de la lecture à la mi-journée dans le magazine Citoyen. Nous serons en compagnie notamment d'Élodie Lallenay, chef du service de la conservation et de la valorisation du patrimoine à la direction de la culture à la mairie de Nouméa, de Marie Crenier, la présidente de l'association des écrivains calédoniens, et de Yannick Jean, auteur et éditeur de Haut Édition Pacifique Sud, le magazine Citoyen a retrouvé dès la fin de ce journal. Il y a 80 ans aujourd'hui, le 2 septembre 1945, c'était la fin de la Seconde Guerre mondiale dans le Pacifique. Sur le pont du Missouri, ancré en rade de Tokyo, le général MacArthur présidait la cérémonie de reddition du Japon. Et c'est le général Leclerc qui a signé pour la France l'acte de capitulation. Un événement qui était commémoré ce matin à Nouméa avec un dépôt de gerbes au monument aux morts de la place Bir Hakeim. La cérémonie a été marquée par la lecture du message de Patricia Mirales, la ministre déléguée auprès du ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. Un message lu par Stanislas Alfonsi, le secrétaire général du Haut-Commissariat, qui est revenu sur le sens de cet anniversaire qui a été célébré en présence de 3 classes de défense des collèges de Rivière-Salée, de Porte-de-Fer et de Jean Mariotti.
Ce discours souligne la nécessité de se rappeler de ceux qui ont fait des efforts, de ceux qui ont fait le sacrifice de leur vie. Se rappeler également que la France était présente ici, qu'elle l'est toujours, et que la France est quelque chose qui dépasse son simple cadre hexagonal. Et la présence de la France ici est une présence qui est à la fois, je dirais, ferme sur ses convictions. C'était dit dans le discours, la liberté doit être défendue partout, et la France défendra la liberté partout, y compris et surtout dans le Pacifique, bien entendu. Et puis la France s'inscrit dans une démarche et dans une dynamique indo-pacifique qui nécessite ce genre de commémoration, parce que c'est un rappel de cette coopération avec tous les voisins, avec tous les partenaires que sont les pays de la région. Nous avons eu la chance, effectivement, d'avoir plusieurs classes défense de 3 collèges différents. C'est important d'exercer ce devoir de mémoire en leur présence. C'est important pour eux de connaître leur histoire. Et puis c'est important pour le territoire de s'inscrire justement dans une histoire qui se poursuit. Et une histoire qui nécessite d'être connue pour ne pas en revivre les aspects les plus sombres.
80 ans après, la consul du Japon en Nouvelle-Calédonie, Yoko Ota, était présente. Elle a été invitée à déposer une gerbe au monument aux morts. Elle y voit la traduction d'une réconciliation entre nos deux pays.
C'est très honoré d'avoir l'occasion de déposer gerbe à cette occasion, comme le représentant du Japon. Ça a félicité à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, de 80 ans avant. C'est vrai que, si je peux un peu exprimer mon sentiment, alors 80 ans avant, on était ennemis. Mais après les 80 ans, on est devenu le partenariat exceptionnel avec la France. Et dans le Pacifique, nous avons une très bonne relation avec les autres pays, Australie, Nouvelle-Zélande, qui représentent aujourd'hui Indonésie et Vanuatu. C'est de temps en temps, ça va devenir le remède de notre corps brisé, mais on peut réconcilier avec le temps.
La cérémonie de commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale dans le Pacifique s'est déroulée en présence des consuls d'Australie, de Nouvelle-Zélande, du Vanuatu et d'Indonésie. Le député Nicolas Metzdorf et les représentants du Congrès, du gouvernement, de la province sud et de la mairie de Nouméa assistaient à ce dépôt de gerbes, ainsi que le général Aouchin, commandant de la gendarmerie en Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie qui accueille la 42e réunion du Conseil des arts et de la culture du Pacifique. Le CEPAC dépend de la CPS et se réunit une fois par an pour renforcer la coordination des priorités dans le secteur de la culture et pour consolider les liens entre les pays et les territoires de la région, Nicolas Legrand.
Oui, les ministres de la Culture du Pacifique sont réunis à la CPS depuis ce matin, l'occasion d'évoquer notamment la prochaine organisation du Festival des Arts du Pacifique dans 3 ans maintenant, et c'est la Nouvelle-Calédonie qui doit l'organiser. Michael Forest, membre du gouvernement, en charge notamment de la culture.
Ça représente une opportunité formidable, mais surtout une responsabilité historique. Après, ben justement, les différentes années difficiles sur lesquelles le pays tente de rebondir, justement, depuis la crise du Covid, la crise de mai 2024. Effectivement, ce Conseil des arts de la culture sera suivi aussi de la 8e conférence des ministres de la culture. Parce qu'il faut aussi rappeler que depuis 2023, l'ensemble des membres de ce comité-là avaient déjà acté le principe hein, qu'on puisse accueillir justement le Festival des arts du Pacifique en 2028. L'an dernier, nous étions absents à Hawaï pour les raisons que vous savez. Et c'est un signe fort de toute la famille du Pacifique, que ce soit de la Micronésie, de la Polynésie, mais aussi de la famille proche de la Mélanésie, de pouvoir constater qu'ils sont toujours à nos côtés pour continuer à travailler, pour mettre en œuvre plusieurs axes de travail stratégiques, notamment la feuille de route 2022-2032 relative à la stratégie culturelle pour l'ensemble des îles Pacifiques, qui rentre bien sûr dans le cadre global hein, de la stratégie 2050 pour un Pacifique bleu.
Et en marge de la réunion du Conseil des arts et de la culture du Pacifique, des rencontres bilatérales seront organisées cette semaine, notamment pour renforcer les liens entre les territoires français du Pacifique en matière culturelle. Jarvis Teuroa, de la direction de la culture de la Polynésie française.
Le premier axe que l'on a défini porte sur les jeux et sports traditionnels, ce que nous, déjà en Polynésie, nous mettons en œuvre. Déjà en œuvre de manière assez accentuée, et également aussi sur le développement des arts et le statut professionnel des artistes. C'est un point sur lequel on a beaucoup travaillé. L'autre axe de coopération portait sur le projet d'inscription du bagne de la Nouvelle-Calédonie au patrimoine mondial de l'UNESCO, puisque nous-mêmes en Polynésie, nous avons déjà l'expérience avec le classement des îles Marquises.
Et parmi les temps forts de cette semaine à la CPS, demain, le 8e Conseil des ministres de la Culture qui se réunira.
Avant de marquer une première pause dans ce journal, l'actualité judiciaire en bref et l'auteur présumé du coup de feu sur la brigade de gendarmerie de Tadine reste en prison. Il était entendu ce matin sous le régime de la comparution immédiate. Son avocat a demandé le renvoi du dossier afin de faire une expertise psychiatrique. Le procès a été fixé au 17 octobre. En revanche, le tribunal a rejeté la demande de remise en liberté formulée par l'avocat du prévenu, qui reste donc en prison jusqu'à son procès. Il est 11h38, la première pause de ce journal, et ensuite on parlera du challenge CIPAC. La troisième édition a été présentée ce matin.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La ville de Nouméa vous informe de travaux de réfection de la chaussée sur la route du Trianon.
Ces travaux auront lieu de nuit du 18 août au 12 septembre, par phase du lundi au jeudi soir de 20h à 5h du matin. Des fermetures partielles seront mises en place au fur et à mesure de l'avancée du chantier entre le magasin Florence et le carrefour de Michel-Ange.
Pendant cette période, la circulation et le stationnement seront interdits dans la zone. Des déviations seront mises en place, mais l'accès pour les riverains et les piétons sera maintenu.
Pour votre sécurité, merci de respecter la signalisation de chantier. Plus d'infos sur nouméa.nc.
Ville de Nouméa, partageons l'événement.
SRB, le spécialiste de l'aluminium pour vos fenêtres, baies vitrées et garde-corps en verre. Vous voulez des baies vitrées de grande taille qui glissent facilement et qui durent dans le temps? Choisissez la robustesse de l'aluminium SRB pour un habitat design et sécurisé. SRB Aluminium, 25 ans d'expertise au service de votre tranquillité. Demande de devis au 28 12 50 ou à contact@srb.nc.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Bodin.
La suite de l'actualité en Nouvelle-Calédonie avec la présentation ce matin, je vous le disais, de la troisième édition du CIPAC Challenge du 6 au 20 octobre prochain. Ça va courir, marcher, pédaler et plus généralement faire du sport dans les entreprises, les institutions et autres associations de Nouvelle-Calédonie. Lionel Sabot.
Oui, le challenge CIPAC qui a été lancé par le groupe éponyme en 2022 rencontre un vrai succès. Pour preuve, lors de la dernière édition, c'était en 2023, 2538 personnes représentant 152 entreprises du territoire ont participé. Le CIPAC Challenge est un challenge sportif pour se mettre en mouvement de manière collective et surtout de manière ludique via une application. Un challenge qui est ouvert aux entreprises mais aussi, vous le disiez, aux institutions et associations. Pierre Massenet est le directeur général du groupe CIPAC.
On inscrit son entreprise, son organisation, on fait des équipes de 5 et ensuite on se lance dans le challenge pour faire des pas, pour faire du vélo, pour faire du sport, et tout ça, ça rapporte des points et ces points, ils s'accumulent et à la fin, on a le trophée de la meilleure entreprise.
Le vélo et les séances de sport, c'est nouveau, hein, c'était pas pour les précédentes éditions. Hein.
Tout à fait. Avant, c'était que les pas. Mm-hmm. Là, on a ouvert un petit peu parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui avaient une activité préférée et donc on a ouvert le champ pour que chacun puisse participer avec son activité préférée. Quand on se retrouve avec des collègues pour faire des points, pour battre l'équipe d'à côté, et ben, qu'est-ce qu'on fait en fait? On se remet en mouvement en s'amusant. en créant du lien avec ses collègues et puis en se motivant mutuellement aussi. Parce que, ben, comme on dit, hein, s'il y en a un qui est un petit peu à la ramasse, eh ben, on va l'aider de manière à ce que l'équipe ne soit pas freinée et puis que tout le monde aille de l'avant. Donc c'est vraiment un sujet de cohésion. C'est s'entraider pour faire quelque chose qui fait du bien à soi-même et aux autres.
La présentation du challenge s'est déroulée ce matin dans les locaux du groupe SIPAC à Magenta en présence de l'ensemble des partenaires et notamment du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui s'implique via l'Agence sanitaire et sociale. Écoutez Claude Gombé, membre du gouvernement en charge notamment de la santé. Pour lui, se mettre en mouvement, c'est aussi en quelque sorte protéger notre système de santé très impacté en Calédonie par ce que l'on appelle les pathologies de surcharge.
Quand on parle de pathologies de surcharge, on parle de maladie évitable. C'est pour cela qu'il est important que nous changions de stratégie. L'activité physique, l'alimentation bien sûr, mais l'activité physique est un élément important pour pouvoir faire des économies de santé. Le monde du travail, comme les autres secteurs, la culture, le milieu de l'église, le milieu de la coutume, etc., doivent intégrer la santé dans leur activité.
Pour le challenge SIPAC, est-ce qu'on va voir une équipe du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie? Parce que vous avez des sportifs dans votre équipe.
Je suis prêt, je suis quelqu'un qui tous les week-ends fait le one-to-one en courant. À mon âge, j'ai quand même 60 ans, j'adore le sport. C'est quelque chose, j'adore. Depuis ma jeunesse, j'ai toujours fait du sport. Voilà. Donc oui, j'ai encouragé mes équipes, j'ai dit, voilà, sinon les gens de mon cabinet également vont participer à cet événement. Et bien sûr, La santé, mais il n'y a pas que ça, il y a la cohésion sociale, c'est important. Le sport est un levier important de cohésion sociale et notre pays en a besoin.
Le CTOS est également partenaire de ce SIPAC Challenge. Il sera même possible pour les équipes inscrites de gagner des points supplémentaires en participant les 18 et 19 octobre prochains au BNC Beach Sport Festival qui se déroulera sur Lanzvata. Christophe Dabin est le président du comité territorial olympique et sportif.
Pour nous, les mouvements sportifs, on pense toujours sport, compétition, performance. Mais le sport, c'est tellement varié. C'est la découverte, c'est du loisir. Et là, c'est du sport santé, c'est du sport bien-être. Et aujourd'hui, dans ce qui nous a intéressé dans le partenariat qu'on a avec SIPAC, c'est vraiment de remettre les gens en mouvement. Mmh. Et mettre les gens en mouvement, c'est automatiquement leur proposer une activité sportive, du sport, qui peut être encadré ou qui peut être fait par chacun d'entre nous, mais qui permet là véritablement que les gens puissent sortir de la sédentarité et puis qu'ils se sentent beaucoup mieux.
Et notez que les entreprises, associations et institutions ont jusqu'au 21 septembre pour s'inscrire. Ensuite, il faudra constituer des équipes de 5 personnes qu'il faudra inscrire jusqu'au 2 octobre. Le coup d'envoi de ce SIPAC Challenge sera donné le 6 octobre. Il s'achèvera le 20 octobre prochain. On saura alors qui succédera au palmarès aux entreprises Baland et Autodis qui avaient respectivement remporté les éditions 2022 et 2023.
Le CMS de Thiou a rouvert ses portes ce matin. Un médecin et une infirmière sont sur place et assurent désormais les consultations médicales du lundi au jeudi de 7h30 à midi et de 13h30 à 17h. Le CMS de Thiou avait fermé ses portes après les émeutes de mai 2024. L'arrivée de ce médecin et de cette infirmière s'inscrit dans la volonté de la province sud de renforcer l'accès aux soins de proximité, mais aussi de soutenir les populations du territoire en matière de santé. La sécurité est l'une des priorités du maire du Mont-d'Or, Elisabeth Rivière, qui était notre invitée ce matin à 7h30. Elle a évoqué le regroupement de la direction de la sécurité au centre-ville, alors que la commune a un effectif de plus de 35 policiers municipaux, dont plusieurs gardes champêtres. Elle affirme d'ailleurs qu'il n'y a pas plus d'insécurité au Mont-d'Or que dans les autres communes de l'agglomération. Il y a bien sûr la particularité de la RP1 et de la tribu de Saint-Louis. À ce propos, elle tient à souligner, après en avoir parlé avec le commandant de la gendarmerie, le général Aouchine, que le dispositif de la RP1 a été modifié, mais qu'il est bien maintenu.
Il y avait une préoccupation des citoyens mandoriens parce qu'à un moment, le dispositif a évolué et nous ne voyons plus de centaures de véhicules positionnés aux mêmes emplacements. Donc c'est vrai que ça a fait une préoccupation. Je suis moi-même citoyenne de la partie sud. Je passe tous les jours à n'importe quelle heure, que ce soit la nuit ou de jour. Je me sens en sécurité sur cette route et le dispositif a simplement été modifié. Et je tiens à rassurer l'ensemble des habitants du Mont-d'Or Sud. Ce dispositif dispositif reste très actif et je veille à ce que la sécurité pour les Mandoriens du Sud soit maintenue et que le dispositif évolue parce qu'à un moment, on a besoin, nous aussi, de revivre, on va dire, normalement. Aujourd'hui, nous circulons de jour comme de nuit sans être arrêtés au verrou et je crois que c'est important aussi de pouvoir à nouveau circuler de cette façon en toute sécurité avec la gendarmerie nationale.
Elisabeth Rivière souligne également un travail mené avec le nouveau directeur des douanes dans le cadre de la lutte contre la drogue. Les débats sont parfois vifs au sein du Conseil municipal du Mont-d'Or, l'occasion d'évoquer les prochaines élections municipales qui auront lieu les 15 et 22 mars. Elisabeth Rivière, qui a succédé à Eddy Le Courrieux, sera candidate à un nouveau mandat et pour ce scrutin, elle prône l'union des partisans de la France. Dans ce contexte, elle ne cache pas son étonnement face à l'attitude du parti Génération NC.
Il a évoqué le contexte mandorien qui invite à avoir une liste dissidente, alors que le contexte de Dimbéa invite à avoir un regroupement. Donc, j'ai pas trop compris cette stratégie. Pour moi, je crois qu'il s'agit encore d'un ego de personnes. Donc, la Nouvelle-Calédonie a besoin que l'ensemble des partis politiques, et notamment les partis politiques non indépendantistes, travaillent de concert et ensemble.
Ah ouais, c'est vrai pour l'avenir de la Calédonie. Est-ce que c'est vrai aussi pour chaque commune?
Mais bien sûr que oui. Pour l'échelon communal, c'est indispensable. Et je crois que cette façon de faire ne peut que porter préjudice à nos Mandoriens et que, en tous les cas, moi, je m'attelle à faire ce pour quoi je me suis engagée, c'est travailler pour les Mandoriens et leur apporter ce qu'ils méritent.
Une interview du maire du Mont-d'Or, Elisabeth Rivière, qui est à retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site internet. Toujours dans l'actualité en Calédonie, en bref, notez que le cluster maritime réunit ses adhérents à l'auditorium de la province sud depuis ce matin. Ils participent à la journée de la mer qui réunit les acteurs impliqués et les institutions qui sont liées au développement économique du maritime.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu et voici notre question du jour. La CAFAT a-t-elle raison, selon vous, de lancer une campagne de lutte contre le travail dissimulé? Si vous pensez qu'elle a raison, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à notre question d'hier, 88% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que François Bayrou ne va pas obtenir la confiance le 8 septembre. Ils sont tout de même 22% à penser le contraire. Le Premier ministre qui a commencé à recevoir les chefs de parti à une semaine du vote, nous y reviendrons dans un instant. Mais avant cela, l'actualité dans la région et direction la Papouasie-Nouvelle-Guinée, où la police a tué 6 personnes qui venaient de dérober la caisse d'un magasin. Le récit de Jean-Pierre Zajac.
Ce vol a eu pour cadre un magasin de Lae, capitale de la province de Morobe. Alors qu'ils s'enfuyaient après en avoir dérobé la caisse, une douzaine de malfrats ont été pris en chasse par la police locale qui en a abattu 6. Un autre gredin s'est ensuite enfui de l'hôpital où il recevait des soins après avoir été blessé par les forces de l'ordre. Plusieurs armes que les malfrats avaient abandonnées en prenant la fuite ont été récupérées, de même que la caisse du magasin qu'ils avaient dérobée. Le commandant de la police de Lae a indiqué que ces hommes n'hésiteront pas à faire usage de leurs armes si de tels vols se reproduisent. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Et à 11h49, une nouvelle pause dans ce journal. Dans un instant, ce sera l'actualité en métropole. À tout de suite.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Chez Lagoon, on fait plus que vous connecter à Internet. On vous accompagne au quotidien. Que ce soit pour vos loisirs, le télétravail ou rester en contact avec vos proches, on est là, tout simplement. Rejoignez-nous et découvrez nos offres sur www.lagoon.nc.
Lagoon, Internet, passionnément.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA Agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
L'actualité en métropole, c'est la suite d'Infomag. On retrouve Jean-François Baudin.
Sauver son siège à Matignon, c'est apparemment tâche impossible pour le Premier ministre. François Bayrou engagera la confiance de son gouvernement sur le projet de budget 2026 le 8 septembre, projet ouvertement critiqué par les oppositions. Il a donc décidé de recevoir les chefs de parti. Il a reçu en premier le patron des communistes, Fabien Roussel, qu'il n'a visiblement pas convaincu.
Pas senti d'ouverture ou de changement. Il y a un Premier ministre qui veut faire 44 milliards d'euros de purges payés par nos concitoyens, par les travailleurs, par les retraités, par les personnes handicapées. Et ça, c'est pas possible. Nous n'accepterons aucun budget qui s'attaquera au pouvoir d'achat des Français.
Et pour l'instant, les socialistes, comme les communistes, ont annoncé qu'ils ne voteraient pas la confiance au gouvernement, ni les députés LFI, qui ont même décliné l'invitation à Matignon et qui sanctionneront le gouvernement, a rappelé la députée Mathilde Panot.
Je vous confirme que nous n'accorderons pas de confiance à un gouvernement qui ne porte pas le programme de rupture sur lequel les socialistes ont été élus.
Pas de vote de confiance des partis de gauche et pas non plus de soutien de la part du Rassemblement national, comme l'a redit la chef de file des députés RN Marine Le Pen avant même d'être reçue demain à Matignon.
Nous n'attendons en réalité rien. Sa pensée est totalement bloquée. Il n'est absolument pas capable de remettre en cause la politique qu'il a menée.
Le Rassemblement national anticipe même la chute du Premier ministre et prépare d'éventuelles législatives. C'est pour cela qu'il réunissait la nuit dernière un bureau de campagne des élections législatives auquel le président du mouvement, Jordan Bardella, a bien évidemment participé.
On peut s'attendre et on doit s'attendre à tout, y compris d'abord à un retour aux urnes par une dissolution de l'Assemblée nationale. Nous engagerons toutes nos forces dans la bataille pour l'emporter. Beaucoup de Français nous attendent et à minima, tous les Français nous regardent.
Un retour aux urnes privilégié donc par le Rassemblement national, selon un sondage Elab paru ce week-end, le camp nationaliste en cas de législative anticipée arriverait en tête au premier tour avec 31% des voix. Les Républicains seront eux aussi reçus à Matignon demain. Avant cette rencontre, le président des LR Bruno Retailleau appelle à ne pas rejoindre les incendiaires qui ne voudraient pas voter la confiance au gouvernement. Message adressé à ses propres troupes qui sont divisées sur le budget préparé par le gouvernement. Dans le reste de l'actualité en métropole, c'est jour de rentrée scolaire. Aujourd'hui, 12 millions d'élèves retrouvent les bancs de leur établissement scolaire. Avec une nouveauté dans les collèges, les téléphones portables y sont désormais interdits. L'actualité en métropole est aussi marquée par les faits divers et encore une agression ultra-violente par un suspect très jeune. À Caluire-et-Cuire, juste à côté de Lyon, un adolescent a poignardé à mort un autre adolescent en pleine rue. La victime, qui n'a que 16 ans, a été frappée par un garçon encore plus jeune, Jean-Luc Bougeon pour Europe 1.
Un adolescent de 13 ans, il a été arrêté chez ses parents, là où il vit. Il est actuellement en garde à vue. Ce sont les deux amis de la victime qui ont donné son nom aux policiers. Ils l'auraient reconnu, selon les informations d'Europe 1, un différend entre le jeune homme mortellement poignardé et le suspect est au cœur des investigations. Une affaire de vol de portable cet été. Ils se sont donc recroisés lundi, casquette sur la tête. Le jeune homme de 13 ans menace dans un premier temps les trois adolescents avec un couteau. Ces derniers prennent la fuite en courant, mais l'agresseur parvient quand même à rattraper la victime et la poignarde à une reprise au niveau du cœur. Le lycéen de 16 ans s'effondre et perd connaissance. L'adolescent est rapidement pris en charge par le SAMU, transporté à l'hôpital avec son pronostic vital engagé. En arrêt cardio-respiratoire, il est finalement mort des suites de ses blessures quelques heures plus tard. Une enquête est ouverte depuis hier soir pour homicide volontaire.
Et à Grenoble, c'est un boulanger qui a été agressé. Il est grièvement blessé, mais ses jours ne sont pas en danger. Il a tenté de s'interposer face à des personnes venues voler du pain sous les yeux de sa patronne qui assistait à presque toute la scène.
Les voyous ont poussé la porte, ils ne sont pas rentrés mais ils ont pris une baguette de pain et ils sont partis et Jimmy est sorti avec une pelle de défournement. Est-ce qu'ils se sont battus ? Toujours est-il que quand il revient, il a été blessé au thorax par arme blanche. Je pense que pour une baguette de pain, il n'aurait jamais dû sortir mais ça devient insupportable de voir qu'on ne peut même pas faire notre métier tranquille. Vous avez des gens qui sont jeunes, qui se lèvent pour aller travailler la nuit, pour servir la population. Aujourd'hui, on n'est protégé par rien du tout. Il n'y a pas une lumière dans cette rue, il n'y a pas de caméra. Je pense que dans cette ville, tout marche en l'envers. Grenoble, ça devient insupportable, c'est plus possible.
Des propos recueillis par nos confrères d'Europe 1. Et puis encore un mot de l'actualité en métropole. Les alertes météo sont levées sur le sud-est après un épisode de pluie torrentielle qui a fait une victime dans le Var. Un automobiliste qui a perdu le contrôle de sa voiture sur une route très glissante. Il sera 11h55 dans quelques secondes. Il nous reste à voir le sport. Ce sera après la dernière pause de ce journal. Et ensuite, ce sera le magazine citoyen.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Chez Huggies, on pense qu'un bébé heureux, c'est un bébé au sec. Avec notre gamme Essentials, il est protégé jour et nuit. Nous offrons une protection fiable et une absorption complète. De quoi ravir les parents. Disponible en 6 tailles pour vous accompagner tout au long de sa croissance. Huggies Essentials, l'essentiel pour tous les bébés.
Fais appel à tes collègues préférés et participe au CIPAC Challenge. Du 6 au 20 octobre, participez au plus grand challenge sportif inter-entreprise de Calédonie. Vous avez 15 jours pour bouger et faire un maximum de pas. Chaque jour, un défi sera relevé sur l'application pour gagner encore plus de points. Fais gagner ton équipe, ton entreprise ou même ton association pour remporter un des nombreux lots. Inscrivez-vous dès maintenant sur la page Facebook CIPAC Challenge. Le CIPAC Challenge, ensemble, on va plus loin.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
Et on va commencer par le football. C'était ce matin à 5h, heure de Nouméa, à la fin du Mercato, le marché des transferts. Mercato qui s'est clos sur un très beau coup réussi par l'OM.
Ah oui, et sans la manne des droits TV en raison de la fin du contrat entre la Ligue de football professionnel et la plateforme britannique DAZN, les équipes françaises avaient donc jusqu'à 5h ce matin pour ajuster leur effectif dans un contexte financier très délicat et tenter de faire d'ultimes bonnes affaires tout en se délestant de leurs éléments à forte valeur marchande. Puisque l'on parle de délestage, l'Olympique de Marseille s'est séparé, sans surprise, d'Adrien Rabiot. L'international a signé pour 3 ans avec le Milan AC, montant du transfert 10 millions d'euros. L'OM, qui vous le disiez, a réussi un joli coup dans les ultimes minutes de ce mercato, puisque juste après avoir trouvé un point de chute à Rabiot, le club phocéen a signé sous forme de prêt un champion du monde 2018 en la personne de Benjamin Pavard. Il s'agit du 4e champion du monde 2018 à revenir en France après Paul Pogba qui est à Monaco, Olivier Giroud à Lille et Florian Thauvin à Lens. Du côté du Paris Saint-Germain, le feuilleton Gianluigi Donnarumma a enfin trouvé son épilogue. Le désormais ex-gardien de but du PSG va rejoindre Manchester City pour un transfert qui est estimé à quelque 35 millions d'euros. À noter également au chapitre des départs du PSG, celui de Randal Kolo Muani, prêté sans option d'achat aux Spurs de Tottenham. Enfin, à noter que Lyon, contraint de dire adieu à son attaquant Georges Mikotadze, cédé pour 36 millions d'euros à Villarreal pour soulager ses finances, a bouclé son mercato avec la signature de l'avant-centre international uruguayen Martin Cetrinho, qui est prêté par le Racing Club de Lens.
Le tennis maintenant avec la suite de l'US Open, ça se passe évidemment sur les courts de Flushing Meadows.
Et oui, et c'était la suite des huitièmes de finale il y a quelques minutes. Le numéro 1 mondial, l'italien Yannick Sinner, s'est qualifié pour la suite du tournoi. Il s'est imposé en 3-7, 6-1, 6-1, 6-1 face au Kazakh Bublik. Ça passe également en quart de finale pour l'Australien Alex de Minaur, pour le Canadien Félix Auger-Aliassime et pour l'Italien Lorenzo Musetti. Chez les dames, Iga Świątek, la Polonaise numéro 2 mondiale, s'est qualifiée facilement pour les quarts de finale en s'imposant en 2-7, 6-3, 6-1 face à la Russe Alexandrova. Ça passe également pour la Tchèque Mouchova et pour la Japonaise Naomi Osaka, qui s'est imposée, écoutez bien, devant la numéro 3 mondiale, l'américaine Coco Gauff. Score final 6-3, 6-2.